Donc voilà, on parlait du serviteur qui est tenté, qui est éprouvé. Mais il n'y a pas que des serviteurs exceptionnels, puisque Jacques nous dit que chacun de nous est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Mais qui c'est qui tente? C'est pas Dieu en tout cas. Mais c'est Satan, toujours. Et il a tout un tas de moyens. Donc il faut bien savoir que nous sommes les cibles, et puis beaucoup d'autres versets nous le disent, cibles de quelqu'un qui veut nous nuire pour empêcher que nous puissions montrer quelque chose de Dieu, et que la vie soit transmise, la vie divine soit transmise, même si ce n'est pas nous qui pouvons faire vivre, il n'empêche que nous sommes de ceux qui transmettent la vie. Alors donc, ici, c'est un combat en dehors de nous, mais c'est nous qui sommes, ici Pierre et ses disciples, les disciples, nous qui sommes la cible. Et qu'est-ce qu'il va essayer de comment faire? Eh bien, il y a des points faibles, c'est ça la question. Pierre, semble-t-il, ici, est très sûr de lui. Quand on est sûr de soi, on ne se méfie pas. Quand on voit ici, il dort, et quelqu'un qui dort est absolument, facilement la victime. On avait dit qu'à la guerre du Golfe qu'il y avait eu il y a longtemps maintenant, la plus grosse hécatombe des soldats américains, c'était pas sur le pendant le conflit, mais c'était une bombe qui est arrivée lorsqu'ils dormaient. Voilà, ils avaient été tués. Mais ça rappelle pas quelque chose quand on a, même si c'est collectif, à propos du royaume de Dieu. Voilà quelqu'un qui sème de la bonne semence. Et puis, on entend dans le chapitre 13 de Matthieu, voilà, c'est donc le royaume des cieux est fait semblable à un homme qui semait de bonnes semences dans son champ, mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie. Alors c'est plus collectif certainement, mais est-ce que l'image n'est pas là aussi? Donc qu'est-ce que ça veut dire être endormi? Est-ce que justement c'est pas compter sur ses propres forces? On n'a pas besoin d'un éveil, c'est-à-dire d'une relation vivante avec le Seigneur Jésus, puisque nous avons on a la capacité, on a l'habitude, on a une autre difficulté, donc on a bien résisté jusque-là, donc ça va bien. C'est peut-être ça, dormir, c'est-à-dire perdre une relation vivante. Quand on dort, on n'est plus conscient d'une relation. Et là, on est en danger. Et voilà, Pierre est en danger, et Pierre va tomber. Et c'est vrai que quand on lit la suite, et ce qui va être justement le travail de sanctification, on voit jusqu'où Pierre a été, ses pleurs amers. Il pleura amèrement. Chose de terrible de réaliser son acte. Avant de l'accomplir, il y a toujours une voix qui nous dit que ce n'est pas si grave, que ce n'est pas très important, puis finalement, c'est rien. Et puis au moment où on a la prise de conscience de notre acte qui a fait tellement de peine à notre Seigneur, à notre Dieu, qui l'a offensé, c'est une véritable offense, alors c'est les pleurs, c'est la réalisation là, mais c'est quelque chose qui pourrait nous clouer par terre. Mais on voit que si j'ai prié pour toi, ça veut dire que de cet échec, de cette faute, de ce péché là Dieu va en faire quelque chose. Le Seigneur va en faire quelque chose pour nous former et pour nous permettre d'être utile après.
Pierre a certainement reçu ses leçons, on est bien d'accord. Et quand on lit à la fin de la première épître au chapitre 5, il dit ceci: « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. » Aux humbles. « Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu, rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourrait dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi. » Il avait là sa vieille leçon. Moi, je vais pas traîner. Si les autres t'abandonnaient, pas moi. Les autres d'accord, mais pas moi. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et puis, Satan a demandé à vous cribler, votre adversaire, le diable, rôde, résistez-lui. En vous appuyant sur votre force, votre puissance, non, étant ferme dans la foi. Dans l'épître de Jacques, il est dit « Résistez au diable, il s'enfuira de vous ». Mais il est dit avant, il faut bien faire attention de citer les versets en entier. Il est dit avant « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il s'enfuira de vous. Approchez de vous de Dieu, il s'approchera de vous. » La clé, elle est là. L'humilité, je n'ai pas de force en moi. Se soumettre à Dieu, s'approcher de Dieu, et là je suis en sécurité. Bien sûr, résister au diable, il s'enfuira de vous. Mais comment le faire si je ne suis pas près du Seigneur? Et pour revenir à la fin de l'épître de Pierre, qui est-ce que Pierre a découvert à travers tout ce chemin qu'il a, cette formation qu'il a eue, ce brisement aussi qu'il a eu, au verset 10 du chapitre 5, le Dieu de toute grâce. Il connaît vraiment, pratiquement dans sa vie, qui est ce Dieu de toute grâce. Et celui qui alors va le rendre accomplir, l'affermir, le fortifier, l'établir sur un fondement inébranlable. Mais il a été amené à passer par toutes ces étapes si douloureuses pour découvrir le Dieu de toute grâce.
Et peut-être se rappeler ce premier verset du psaume 16, et c'est touchant quand nous savons que prophétiquement le psaume 16 parle de la personne de notre Seigneur. Garde-moi car je me confie en toi. Nous n'avons pas la puissance de nous garder. Garde-moi, car je me confie en toi. Philippe nous a parlé de l'activité de l'adversaire tout à l'heure, mais nous pouvons être certains, nous en avons un qui est avec nous, qui est plus fort que cet adversaire. Ça, nous pouvons en être certains. Et c'est quelque chose sur lequel nous pouvons nous asseoir fortement. Pierre, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler. Le Seigneur a permis cela. Pourquoi? Parce qu'il avait une bénédiction pour Pierre. Se défiant de lui-même, il pourra se confier dans le Seigneur. Et on va voir ce qui va en ressortir. J'ai prié pour toi. Mais le Seigneur a permis cela, exactement comme il a permis ce qui est arrivé à Job. Lui, il sait ce qu'il va en tirer. Le verset 91 du psaume 119 nous dit « Toutes choses lui servent ». Et c'est dans ça, mais nous ne sommes pas dans la main de l'adversaire, nous sommes dans la main de Dieu et toutes choses le servent. J'ai prié pour toi et non seulement cela va être bénéfique pour ce cher disciple, mais ça va être bénéfique pour l'assemblée.
Il y a un lien entre la fin de Gethsémané et le reniement, c'est un certain Malchus. Jean-Luc, tu viens de parler du fait de la grâce du Seigneur qu'il a apprise, qu'il va apprendre. Et il y a encore une manifestation de la grâce du Seigneur à la fin de Gethsémané, c'est quand Pierre prend son épée. Alors il avait une épée, lui le courageux s'était pris une épée, mais peut-être cachée, et puis maintenant il l'a, il la sort, il la brandit au moment un peu à contre-temps. On a vu qu'il dormait quand il fallait veiller, et là il manie l'épée et il coupe l'oreille de Malchus. Ça veut dire qu'il a visé la tête. Et le Seigneur, dans sa grâce, non seulement a permis qu'il ne coupe que l'oreille, mais combien de fois le Seigneur nous a gardés? Combien de fois le Seigneur nous a gardés des conséquences de nos faux pas? Combien de fois nous n'avons coupé qu'une oreille alors qu'on avait visé la tête? Deuxième grâce du Seigneur, il guérit l'oreille. Il guérit l'oreille. Et pourtant, Malchus, eh bien, il a un parent, et on va retrouver le parent de Malchus dans la cour. Alors, quelque part, le pauvre Pierre, en maniant mal son épée, ou en maniant son épée à tort, non seulement il coupe une oreille, il empêche à quelqu'un d'entendre, et puis il y a encore des conséquences plus tard, c'est que vers Jean 18, 26, d'entre les esclaves du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit « Ne t'ai-je pas vu, moi, dans le jardin avec lui ?» Alors évidemment, quand on manie tout à fait mal la parole de Dieu, l'épée, hein, pour symboliser un petit peu, quand on est totalement à contre-courant, et qu'on brandit la parole un peu à tort, non seulement on peut couper les oreilles, à savoir rendre les gens sourds au message, mais on peut aussi rendre, je dirais, un message non ne peut pas être reçu par d'autres qui en entendent parler. Ah oui, mais c'est le parent de celui à qui il a coupé l'oreille. Alors le reniement, ça vaut le coup de lire un tout petit peu dans Marc, parce que c'est dans Marc que c'est presque le plus précis. Parce que Marc est le seul évangéliste à dire qu'il y a deux chants du coq. Alors on peut rappeler que Marc, c'est un peu l'évangile de Pierre. Hein. Marc, c'est un peu le secrétaire de Pierre, c'est son disciple, c'est son fils spirituel un peu. Et dans l'évangile de Pierre, de Marc, eh bien, il y a beaucoup de détails. Et on peut en mentionner au moins deux, le fait qu'il y a le chant du coq et le vestibule. Donc Marc 14, verset 68. « Et il le nia disant, je ne sais ni n'entends ce que tu dis. Et il sortit dehors dans le vestibule et le coq chanta. Et la servante, l'apercevant encore, se mit à dire à ceux qui étaient là, etc. » Premier reniement, il est au bord du feu et puis il sort et il va jusque dans le vestibule et il y a le premier chant du coq et il nous donne là tous les détails, Pierre, dans son évangile de Marc. Là aussi, combien de fois le Seigneur a voulu nous aider à nous sortir d'une situation difficile par ce premier chant du coq. Et il est déjà dans le vestibule, il en était plus loin de la sortie là. La fameuse fuite dont il est parlé dans une épître. Fuyez. Bon, et puis voilà, il n'a pas fui. Que faisons-nous, Seigneur? Combien de fois il nous donne la possibilité d'avoir un premier chant du coq et d'être dans le vestibule pour s'enfuir, pour ne pas continuer à tomber et à dégringoler complètement.
Et quand il est tombé, il y a le regard du Seigneur. Je ne sais pas si on se souvient un peu de cette nuit-là où notre Seigneur était l'objet de tant de haine, de tant de coups. Et ce moment qui ont été quand même tellement difficiles. Il y a un verset dans les psaumes qui dit « Jusque quand vous jetterez-vous sur un seul homme pour le faire tomber ?» Ils sont tous jetés sur lui. Et le Seigneur, en fait, il suivait Pierre. Et quand Pierre est allé jusqu'au bout, il le regarde. Ne croyez pas que le souci du Seigneur là, ce n'était pas les coups qu'il recevait, mais c'était son apôtre, c'était Pierre, et il le regarde. Ça n'a pas été un regard qui a foudroyé Pierre, un regard de reproche, c'est un regard d'amour. Mais il y a des regards d'amour qui transpercent plus que tout. Et Pierre se souvient de la parole du Seigneur. Ah, c'est trop tard. « Seigneur, tu m'as prévenu. » Il y a eu ce second chant du coq, il y a eu tout ça, et puis je n'ai pas écouté. Et Pierre sort et pleure amèrement. Et là encore, quand Pierre parle à la fin de son épître, il dit après avoir souffert, mais il y a la souffrance du Seigneur d'un côté, mais quelle souffrance pour Pierre, j'ai renié mon maître. Quelle souffrance. Mes frères et sœurs, nous sommes l'objet de la grâce de Dieu. Je ne sais pas quelle est notre vie à chacun, les tentations de l'un, de l'autre. Peut-être dans le mode de vie d'aujourd'hui, pour les jeunes, il y a tellement de tentations pour tomber dans le péché. Est-ce que vous allez vous laisser entraîner, ne pas écouter les avertissements du Seigneur, ne pas être attentif aux occasions qu'il vous donne de vous enfuir? Voyez, Pierre, il est allé jusqu'au bout. Le Seigneur lui avait proposé, avant de partager sa joie, sa paix, son amour. Et là, il se trouve, il n'y a plus de joie. Il n'y a pas de paix. Et il peut se souvenir de l'amour du Seigneur, de celui qu'en fait, il a trahi. Il pleura amèrement.
Mais il y a en même temps un encouragement d'une puissance particulière. Si le Seigneur avait regardé Pierre, et si Pierre n'avait pas regardé le Seigneur, il ne serait pas sorti en pleurant amèrement. la grâce de Dieu fait que Pierre a besoin de son Seigneur parce qu'il l'aime véritablement. Juste au moment précis du dernier chant du coq, de la troisième fois, le Seigneur se tourne et regarde Pierre. Pierre est là, lui, il est dirigé, il attend. Qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-on lui faire? Le Seigneur est comme occupé à autre chose dans les circonstances qu'on lui fait subir. Mais ses pensées sont là, tournées vers Pierre, et à l'instant, il se tourne, il sait où se trouve Pierre, et le regarde. Il y a une différence. Après un avertissement, une mise en garde, entre un regard dur, inflexible, tu mérites un châtiment, et un regard d'amour véritable qui dit, tu vois, tu l'as fait, mais tu l'as fait. Alors souvenons-nous que dans nos égarements, le Seigneur nous suit, sait où nous sommes, ne le quittons pas dans nos pensées, regardons, revenons vers lui pour pouvoir rencontrer son regard au bon moment, et connaître en nous-mêmes cette action profonde, divine, qui va changer totalement le cours des choses. La confiance va être dans le Seigneur, plus en Pierre. Moi je suis, moi je ça, nous l'avons cité, hein. Pierre avait confiance en lui. Maintenant, il sait qu'il ne peut plus avoir confiance en lui. Et plus tard, dans l'évangile selon Jean, dans son entretien avec le Seigneur, justement parce qu'il n'a pas confiance en lui, au fur et à mesure qu'il livre cette compréhension et le fait qu'il est persuadé de cela, le Seigneur lui ajoute une responsabilité nouvelle.
Je crois qu'en Gethsémané, Jésus a eu une parole qui à elle seule définit bien le caractère de Pierre. Lorsque Jésus dit à Pierre, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et c'est exactement ce qui décrit la personnalité de Pierre. Dans son esprit, il est tellement bouillonnant pour le Seigneur qu'il dit des choses qui dépassent parfois l'imagination, mais dans la réalisation pratique, la chair est faible, et les actions ne suivent pas toujours les bonnes intentions du cœur. Lorsque Pierre se retrouve dans la cour du souverain sacrificateur, au verset 58e de Matthieu 26, il est entré, il s'assied avec les huissiers pour voir la fin. Visiblement, il est toujours attaché à cette notion de Jésus, le Messie, le Christ, le libérateur. Il se rend compte que tous ses espoirs s'évanouissent, que Jésus est arrêté, qu'il va être probablement condamné et qu'il va mourir. Il ne voit pas encore plus loin. Il n'a pas encore compris l'étendue des paroles de Jésus, « Ce que je fais maintenant, tu le comprendras plus tard. Là où je vais maintenant, tu ne peux pas me suivre, mais tu viendras plus tard. » Il est encore coincé, il est encore limité. Comme trop souvent, nous aussi, nous restons limités dans notre désir de plaire au Seigneur Jésus. Et pourtant, quelle grâce dans le Seigneur. Il parle, il agit, et puis il ne fait plus que regarder. Il avait prévenu Pierre, « Satan est là, j'ai prié pour toi, et puis la faute étant commise, il regarde. » Cela nous fait penser à la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Au chapitre 5e du Cantique des Cantiques, la bien-aimée a pris ses aises. Le bien-aimé parle encore. Ouvre-moi. Le bien-aimé se manifeste encore. Il fait du bruit. Il frappe à la porte. Et puis il ne parle plus. Il ne fait plus de bruit. Il montre simplement sa main qui passe par la poignée de la porte. Et quand la bien-aimée enfin se décide à se lever et à ouvrir à son bien-aimé, il n'est plus là, il est parti plus loin. Et il lui faudra cette merveilleuse confession du Cantique des Cantiques au chapitre 5e pour réaliser où il est, dans son jardin, et non pas dans la ville où il est allé le chercher. C'est la même expérience de Pierre. Il entend le Seigneur frappe à la porte de son cœur, « J'ai prié pour toi, afin que quand tu seras une fois revenu, tu affermisses tes frères. » Et puis le Seigneur ne parle plus, il ne fait que regarder. Et puis Pierre ne verra plus le Seigneur. C'est la crucifixion. Il faudra attendre le jour de la résurrection pour que, seul à seul, cœur à cœur, d'abord, le Seigneur parle à son fidèle serviteur. Nous en avons une expression dans la première épître aux Corinthiens. C'est une première rencontre du Seigneur avec Pierre. Ce n'est pas encore le moment de la restauration. Que se sont-ils dit ? La parole se tait. Nous ne pouvons pas savoir. Comme chaque fois que le Seigneur nous reprend dans une faute, dans une inconséquence que nous avons produite, il y a là un rapport secret du Seigneur avec chacun de nous que nous ne pouvons pas diffuser. Mais nous réalisons au travers de cet exercice que le Seigneur nous aime et qu'il veut que nous entrions toujours plus à son service. Et il y a au travers de cette manifestation de Jésus des expériences qui nous sont précieuses. Tout d'abord, lorsque Jésus appelle Pierre au bord du lac de Galilée, c'est une pêche miraculeuse. Que fait Pierre au jour de la résurrection ? Il retourne à sa première fonction. Il retourne pêcher. Il reprend ses activités. Et c'est là que le Seigneur va encore aller à sa rencontre. Il ne lui fait pas de reproches, mais le Seigneur nous rattrape toujours par le moyen avec lequel nous nous sommes égarés de lui. Ici, dans la cour du souverain sacrificateur, nous savons qu'il faisait froid, il faisait nuit, et que Pierre, comme les autres, se chauffait. Il y avait un feu. Qui avait-il sur le rivage de la mer de Galilée en Jean 21 ? De la braise. Le Seigneur aussi avait préparé un feu. Un feu pour s'éloigner, mais un feu pour être rapproché. Comme le Seigneur sait doucement nous faire un clin d'œil, nous regarder pour nous montrer en quoi nous avons fait défaut, mais pour nous montrer en quoi il convient de reprendre du service et de revenir dans le giron du Maître, car il y a tant de plaisir à l'aimer et à le servir.
Terminer ces remarques sur le reniement de Pierre par une exhortation que j'adresserai d'habitude, on s'adresse aux jeunes, mais là je m'adresserai à ceux qui ont pris la parole jusqu'à présent et que l'on peut considérer comme des anciens. Pierre lui-même qui revendiquera ce titre d'ancien dans la première épître de Jean. Deux lectures, mais qui vont dans le même sens et qui sont très courtes. Une dans 1 Timothée, il est dit « Sois attentif à toi-même et à l'enseignement ». C'est pour référence 4, verset 16. Et puis, dans ce discours de Paul aux anciens d'Éphèse, au verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit-Saint vous a établi surveillant, pour paître l'assemblée de Dieu ». Il y a la parole, le faire, le dire et l'être. Faisons attention à ne pas inverser les choses. Quand il est dit dans Timothée, sois attentif à toi-même. D'abord à toi, puis après à ton enseignement. Aux anciens d'Éphèse, même chose. Sois attentif à toi-même. Soyez attentif. Pardon, au verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. » Il ne faut pas inverser les choses. Pierre était prompt en parole, on l'a dit, en acte. L'être, par contre, était quelque peu déficient. Alors, que nous soyons tous bien vigilants, ça s'adresse bien sûr à ceux qui ont un ministère d'enseignement, à ceux qui ont à veiller à garder le troupeau, soyons très vigilants, d'abord et avant toute chose, à soi-même. Je me souviens d'une grave affaire qui s'est passée à Paris, où un frère avait dit « J'étais tellement occupé par le service du Seigneur, que je n'ai pas vu ce qu'il y avait en moi. » Et ce qu'il y avait en lui était gravissime. mais il ne l'avait pas vu parce qu'il avait d'abord négligé de regarder à lui-même.
Le jour de la résurrection, l'attitude de Pierre est très belle, c'est qu'il court au tombeau. Il court vers celui qu'il n'a pas revu au fond et qu'il a renié. Courir au Seigneur quand on est tombé. Déjà dans le bateau, on a lu dans Luc 5, après la première pêche miraculeuse, il se jette à ses pieds et lui dit « Retire-toi de moi, merci. » C'est très opposé, ça. Il se jette à ses pieds tout près et puis « Retire-toi de moi. » Et en fait, c'est le bon état d'esprit, c'est d'aller tout près du Seigneur, mais de se sentir au fond indigne. Et c'est ça le bel état d'esprit. C'est Pierre, il se sent sûrement très indigne, mais il court vers lui. C'est exactement comme la fin de l'histoire des frères de Joseph au moment où Joseph se révèle, quand la coupe a été trouvée dans le sac de Benjamin. Ils auraient pu tous rentrer, non. On retourne chez Joseph et on met tout à plat. On retourne vers celui qui condamne, on retourne vers celui qui voit tout. On va vers celui, finalement, qu'on a offensé, courir vers lui.
Et en arrivant au chapitre 21 de l'évangile de Jean, découvre que celui que Pierre vient de rencontrer vivant, non seulement a vraiment des choses à lui dire, mais finalement, peut-être que il veut amener Pierre à parler, à se dévoiler, dire ce qu'il ressent. Et c'est en général lorsqu'on confesse, et là c'est quelque chose qui va être public puisqu'il n'est pas tout seul, la confession, dire exactement ce qu'il en est, où j'en suis. Hein, c'est pas seulement dire pardon, c'est vrai, j'aurais pas dû, etc. Non. Et finalement, il va exprimer ce qu'il a au fond de lui-même. Et c'est le travail du Seigneur de l'amener à une vraie confession. Et c'est pas étonnant, mais quand même, quand on lit au verset 15, cette expression « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Non. « M'aimes-tu plus que ne font ceci ?» Hein, je peux aller jusqu'à la mort avec toi, il n'y a pas de problème. Moi, tu faisais remarquer tout à l'heure, mais plus que ne font ceci.